Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, chacun confiné chez soi, mais tous ensemble, grâce à la technique et aux techniciens de Radio France qui, eux, se trouvent à la Maison de la Radio. À l'ordre du jour ce soir, faut-il simplement rouvrir l'école ou en profiter pour la réinventer? L'expérience du confinement a été très particulière pour un grand nombre d'élèves et de professeurs qui ont dû, dans l'urgence, inventer une nouvelle façon d'enseigner et d'apprendre à distance. Expérience difficile d'ailleurs pour un grand nombre d'élèves qui, eux, ont décroché pendant ces presque 2 mois de confinement. Ce sont d'ailleurs ces élèves qui, dans le discours du gouvernement, sont une des raisons majeures de la réouverture programmée la semaine prochaine. Mais pourra-t-on reprendre le cours des cours comme auparavant, ou bien cette rupture brutale des enseignements ensemble et physiquement dans un même endroit va-t-elle donner lieu à une ou plusieurs réinventions de l'école et de la pédagogie, comme cela a été le cas lors des grandes crises du XXe siècle? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, Julie Delalande, professeure des universités en sciences de l'éducation à Caen, chercheuse au CIRNEF et autrice de « La cour de récréation pour une anthropologie de l'enfance ». Christophe Caillot est également avec nous, il est professeur d'histoire-géographie dans un lycée de l'agglomération de Dijon, il est membre du syndicat SNES, il est à coordonner critique de l'école numérique aux éditions de L'Échappée, c'était l'année dernière, en 2019. Et enfin, Édouard Geffray est avec nous, il est directeur général de l'enseignement scolaire, la DGESCO, donc au ministère de l'Éducation nationale. Et il va tout de suite nous répondre à cette question, comment s'est passée justement cette période très particulière des 2 mois que nous venons de vivre en matière d'école et d'enseignement, Édouard Geffray.
Écoutez, j'aurais tendance à vous dire aussi bien que possible, grâce à l'investissement des professeurs et à ce qui a été fait par l'institution. Il faut quand même imaginer que, en quelques jours, en quelques heures, les professeurs, dont le métier est fondé sur la relation directe à l'élève en présence de l'élève dans une même salle, sont passés à ce qu'on appelle parfois le distanciel, le tout distanciel, c'est-à-dire on tout fait à distance. Et ça a, globalement marché. Alors on sait bien sûr que, et on va en parler, hein, qu'il y a des disparités parce que tous les élèves ne sont pas forcément placés dans la même situation, etc. Oui, bien sûr. Mais globalement, je pense que tout le monde a mesuré à quel point les professeurs et l'institution ont été investis et à quel point justement on avait maintenu ce qu'on appelle cette fameuse continuité pédagogique. C'est-à-dire que les apprentissages ne s'étaient pas arrêtés le 3 mars, 15 mars, 16 mars, selon les dates de confinement.
Et qu'est-ce qui, justement, permettait ce saut, justement, dans l'inconnu? Est-ce qu'il y avait eu des préfigurations de ce type de crise sanitaire, de fermeture obligatoire des écoles? Ou est-ce qu'il a fallu improviser en quelques heures, comme vous le disiez à l'instant même, Édouard Geffray?
Alors, les pratiques ont dû s'adapter, les pratiques individuelles ont dû s'adapter en quelques heures. En revanche, en termes d'outils, le ministre avait demandé en fait au CNED, à la suite du cyclone Irma, dont vous vous souvenez bien, d'imaginer un dispositif à distance dans l'hypothèse où des établissements devraient rester longtemps fermés. Et c'est le fameux dispositif qui s'appelle Ma classe à la maison, qui permet en fait d'avoir des ressources en ligne, de la maternelle jusqu'à la terminale, et qui en même temps propose un système de classe virtuelle, donc qui permet aux professeurs de faire classe entre guillemets avec ses élèves à la maison. Et donc les professeurs se sont beaucoup appropriés cet outil-là en particulier, hein, puisque un professeur sur deux aujourd'hui utilise Ma classe à la maison et classe virtuelle du CNED. Et puis il y a par ailleurs tout un tas d'autres outils que les professeurs avaient déjà l'habitude d'utiliser, notamment ce qu'on appelle les espaces numériques de travail au collège et au lycée.
Christophe Caillot, bonsoir. Vous avez vous-même utilisé ces outils avec vos élèves. Vous êtes, je rappelle, professeur dans un lycée d'agglomération de Dijon et vous êtes professeur d'histoire-géographie.
Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Alors, ces outils, je les ai utilisés, comme la plupart de mes collègues. Je remercie Monsieur Geffray de reconnaître l'investissement des enseignants et des autres personnels dans cette situation bien compliquée. Mais je voudrais revenir sur une expression que M. Geffray a utilisée et qui vient de M. Blanquer, c'est celle de continuité pédagogique. Je pense que c'est une profonde erreur, hein. C'est une forme de masque qui est mise sur la réalité, parce qu'il y a une rupture en fait pédagogique, et pas simplement pédagogique, elle est aussi spatiale, psychologique, sociale. parce qu'il n'y a pas pu avoir d'enseignement, en fait. On n'a pas pu réellement progresser dans les apprentissages, d'ailleurs. Dans la plupart des établissements, c'est finalement ce qui a été décidé, c'est-à-dire qu'on pouvait uniquement revenir sur des choses qui avaient été précédemment en vue, sur certains acquis, mais qu'il était hors de question de continuer à avancer réellement dans les programmes, étant donné le pourcentage très important d'élèves qui avaient décroché. Donc il n'y a pas eu de continuité pédagogique. Il y a eu plus ce qui s'apparente à une forme d'invasion numérique dans nos vies, à un solutionnisme technologique aussi assez sidérant, parce que si on revient un peu sur la chronologie, la temporalité des choses, là, il faut se rappeler quand même que le jeudi, au début mars, ça devait être le jeudi 12 mars au matin, Monsieur Blanquer nous expliquait que la fermeture des établissements scolaires n'était pas du tout envisagée. Et puis, patatras, le soir même, on apprenait qu'en fait, le confinement allait être mis en place. Et là, par la magie du numérique, 4 jours après, M. Blanquer nous annonçait qu'il y aurait une continuité pédagogique. Et en fait, il annonçait même, je me souviens explicitement, il utilisait l'expression « nous sommes prêts » à plusieurs reprises. Mais c'est pas vrai, rien n'était prêt. Et les choses ont profondément dysfonctionné, aussi bien d'un point de vue matériel, mais pas que ça, aussi d'un point de vue social. Parce que face à cette situation... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de nombreux outils qui ont été mis en place à tous les niveaux, par les enseignants, aussi parfois par les établissements, par des élèves qui ont pu en proposer, et il y a eu un éclatement total de l'offre par le numérique, une forme d'individualisation, d'atomisation de la relation entre l'enseignant et les élèves, qui s'est jouée contre, notamment contre les élèves les plus défavorisés, les plus éloignés de l'école, avec le moins de matériel et le moins de personnes et de capital culturel pour accompagner cette situation d'éloignement de l'école.
Édouard Geffray, justement, qu'est-ce que vous répondez à cette question qui est très proche de ce que certains ont vu, puisque dans Libération, eh bien, le titre hier était « La zizanie » à propos de l'école, c'est-à-dire une sorte de désordre, même si le ministère avait l'intention justement qu'il y ait un certain ordre qui se mette en place, une sorte de désordre parce que simplement... Beaucoup de professeurs ont utilisé des outils qu'ils connaissaient par ailleurs et pas simplement les outils qui étaient fournis par le CNED et Ma Classe à la Maison.
D'abord, en termes d'outils, on n'a pas inventé Ma Classe à la Maison le 16 mars, puisque non seulement cet outil préexistait, mais il a été déployé pour les élèves de l'enseignement français étranger en Chine dès janvier. Il a été déployé dans les premiers clusters à chaque fois le jour même où les clusters ont été fermés. Il a donc été généralisé à partir du 16 mars. Donc l'outil, il existait, il était prêt. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le lundi 16 mars au matin, il y avait une saturation des réseaux pour tout le monde. Et d'ailleurs, vous avez dû faire l'expérience sans aller sur Ma Classe à la Maison, qui a été résolue en quelques jours et qui était, j'allais dire, un sujet national et pas un sujet de la plateforme. Ensuite, donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on appelle la continuité pédagogique ? Les apprentissages, et c'est pas tous les jours j'apprends une notion nouvelle et je franchis une marche nouvelle. C'est un mélange à la fois de progression et de consolidation. On passe régulièrement du temps à, j'allais dire, consolider les notions précédentes pour pouvoir apprendre la suivante, revenir, construire, élaborer, mettre en relation, etc., etc. Et j'ai vraiment l'impression que les parents ont fait cette expérience-là. Alors bien sûr qu'on a prioritairement misé sur la consolidation des apprentissages, ça c'est sûr, mais aussi en fonction des niveaux, des matières, du degré d'autonomie des enfants, etc., etc. Il y a des notions qui ont pu être découvertes à distance, et évidemment avec toutes les précautions qui ont lieu d'être. La troisième chose, c'est ce qui peut être qualifié par certains, vous avez posé en tout cas la question, de désordre. Moi, j'aurais envie de vous dire, est-ce qu'on parle de désordre ou est-ce qu'on parle de souplesse et d'adaptation? C'est-à-dire, soit alors on dit, voilà, il faudrait qu'il n'y ait qu'un outil qui soit utilisable par tout le monde dans les mêmes conditions, etc., etc. Et dans ce cas-là, tout le monde aurait beau jeu de dire, c'est quand même formidable, c'est quand même le professeur qui connaît ses élèves, ce qui est vrai, c'est quand même lui qui assure la continuité pédagogique, ce qui est exact, et on essaye de tous nous faire rentrer le même outil. Soit alors, vous prenez l'autre possibilité qui consiste à dire, effectivement, c'est le professeur qui assure la continuité pédagogique, c'est lui qui connaît ses élèves, et on met à sa disposition un bouquet de services, un bouquet d'outils, ceux qu'il utilisait déjà avant, dans les académies, il y avait déjà des outils numériques qui étaient utilisés bien avant Ma Classe à la Maison, et donc vous avez des professeurs ensuite qui, effectivement, par rapport à ce qu'ils savent faire, à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, à ce qu'ils savent de leurs élèves, utilisent des services différents. Est-ce que c'est mauvais? Je ne crois pas, parce que l'outil n'est qu'à l'appui de l'action du professeur. L'enseignement, c'est le métier du professeur. L'outil n'est qu'un appui, ça ne se substitue pas. Et c'est pour ça qu'en mettre un seul, très honnêtement, je ne crois pas que ça aurait eu un très grand succès et d'ailleurs même une très grande utilité.
Mais néanmoins, ce que disait à l'instant même Christophe Caillot sur la question des inégalités, ça, vous reconnaissez effectivement que c'est un véritable problème. Beaucoup de parents d'élèves se sont trouvés confrontés à l'idée d'avoir simplement, alors qu'ils avaient deux ou trois enfants, un seul ordinateur à la maison, ce qui rendait extrêmement compliqué justement la liaison avec les professeurs qu'ils devaient avoir pour pouvoir justement mettre en œuvre ce que vous appelez la continuité pédagogique, Édouard Geffray.
C'est évidemment un enjeu majeur, hein, et d'ailleurs, je crois que tout le monde a été d'accord aussi là-dessus dès le départ. Hein, c'est-à-dire que c'est objectivement une très grande difficulté, à la fois en termes d'accès aux outils, d'accès à la connexion aussi, parce que parfois on peut avoir l'outil sans avoir la connexion suffisante. Dans les fratries, évidemment, si trois enfants ont besoin d'accéder au même outil, mais en même temps, c'est compliqué, etc. Et c'est d'ailleurs un enjeu. Notamment sur la base de cet enjeu social, que les écoles vont commencer à réouvrir très progressivement à partir de la semaine prochaine. Donc ça, c'est indéniable. Après, si vous voulez, soit alors on se contente de ça, soit alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez que, par exemple, on a distribué un certain nombre d'outils numériques aux enfants, notamment dans les sites éducatives. On a mis en place un partenariat avec la Poste qui permettait d'envoyer des devoirs à la maison aux élèves qui n'avaient aucune connexion. Et c'est des dizaines de milliers de devoirs qui partent tous les jours vers un certain nombre d'élèves en situation entre guillemets d'isolement numérique. Donc il y a des palliatifs qui ont été trouvés. Une fois encore, ça ne se substitue pas à l'école. Hein, il ne s'agit pas de dire que ça remplace. Il s'agit de dire que ça maintient une forme de continuum qui permet ensuite, quand on reprend, de ne pas avoir une pause complète, un vide complet pendant plusieurs mois.
Christophe Caillot, comment vous envisagez cette reprise, ce redémarrage ? Bon, vous êtes professeur en lycée, donc ça risque de ne pas arriver pour vous, puisqu'on sait que le lycée, ça sera beaucoup plus tard, voire pas du tout avant l'été. Mais néanmoins, comment envisagez-vous justement à la fois la sortie de cette période particulière qui était la période de confinement en matière d'éducation et puis le retour à l'école ?
Écoutez, pour revenir un peu, pour vous répondre et puis revenir un peu sur ce que vient de dire Monsieur Geffray, j'aurais quand même insisté sur cette histoire de rupture. C'est-à-dire que Monsieur Geffray a beau dire, il faut revenir sur ce que c'est qu'une école. Une école, c'est un temps très particulier de commun. C'est-à-dire qu'il y a des horaires communs, il y a des espaces en commun, il y a un échange de paroles, de regards, un nombre d'interactions absolument incroyable. Beaucoup d'ailleurs sont infimes. Et ça, c'est aboli. C'est-à-dire que le lundi matin même, on nous parlait de continuité pédagogique. On aurait pu prendre le temps, ne serait-ce que prendre le temps de 15 jours. Mais non, tout de suite, il fallait continuer à faire fonctionner la machine. Il faut continuer la production, la croissance, etc. Il y a quelque chose de très politique là-derrière. Parce que de toute façon, un projet d'école, c'est aussi un projet de société, c'est un projet politique.
Non, mais néanmoins, maintenant, mettons que cette période soit derrière nous, et qu'on retourne à l'école, mais ça pose aussi d'autres problèmes de retourner à l'école. Donc c'est compliqué. Comment fait-on pour pouvoir justement à la fois critiquer, comme vous le faites, Christophe Caillot, l'école numérique telle qu'elle pourrait se mettre en place, et de l'autre côté, se dire qu'on ne peut pas retourner non plus dans ces lieux d'interaction physique que vous décrivez si bien, avec les regards et les gestes qui sont propres justement à la compréhension de l'autre.
Justement, vous posez la bonne question, vous mettez le doigt sur le problème, c'est-à-dire... Il y a eu un communiqué de la FCPE, il y a plus d'un mois maintenant, qui a dit « Maintenant, Monsieur Blanquer, il faut arrêter de faire semblant. Il n'y a pas de continuité pédagogique. » Et en fait, oui, parce que si on ne prend pas le temps, si on ne prend pas la mesure de cette rupture, on continue à trouver uniquement des mauvaises solutions et on refuse d'admettre qu'on est dans une situation où il ne peut plus y avoir réellement école. Donc c'est-à-dire que là, par distance, il ne pouvait pas y avoir réellement école. Le retour qui est prévu, c'est pas non plus de l'école. C'est même pas une garderie, puisque certains collègues ont parlé de garderie, mais c'est un temps d'accueil extrêmement anxiogène pour les élèves. Parce que ce qui est prévu, là, quand on lit le protocole, il est inapplicable. C'est-à-dire que c'est un non-sens pédagogique. En fait, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de possibilité de regarder le travail des élèves. En fait, il n'y aura pas de geste pédagogique possible. Il y a un problème psychologique, c'est-à-dire qu'on va entasser des gamins. Imaginez des enfants, là, des maternelles, des primaires, le début du collège. Ils vont devoir rester assis toute la journée avec face à eux des adultes qui ont des masques, on va désinfecter tout le temps. Ils vont pas pouvoir jouer à des jeux de ballon, ils vont pas pouvoir toucher les installations, pas pouvoir se partager de stylos. Enfin, il y a une sorte de presque de maltraitance psychologique dans cette situation, et aussi une vraie question sur laquelle on pourra revenir, peut-être que M. Geffray a la réponse, hein, mais c'est la mise en danger juridique. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y a le moindre incident? Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera responsable s'il y a un nouveau cluster, comme on dit?
Merci Christophe Caillot. Vous êtes dans le temps du débat, un temps du débat consacré à la question de l'école, et en particulier en se posant la question de savoir s'il faut à la fois rouvrir l'école et peut-être la réinventer, avec nos trois invités, Christophe Caillot, Julie Delalande et Édouard Geffray.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Julie Delalande, vous n'êtes pas encore intervenue depuis le début de cette émission, et puisque nous avons choisi d'aller vers la réouverture, mais également vers une réinvention possible de l'école, vous avez participé à une tribune qui a été publiée récemment dans la presse, c'était dans Le Monde le 27 avril, qui disait « Et si nous faisions classe dehors ?» reprenant aussi des données qui sont celles des pédagogies nouvelles, de l'éducation nouvelle, de l'enseignement dans la nature, etc., qui ont été des grandes données qui ont structuré la question de l'enseignement tout au long du XXe siècle, et en particulier dans certaines écoles, comme les écoles en plein air de Suresnes, qui ont été des modèles pour beaucoup d'enseignants et d'enseignements tout au long du XXe siècle. Est-ce que vous pensez justement que c'est l'occasion, cette coupure, cette rupture, comme disait Christophe Caillot, pour pouvoir réinventer de nouvelles formes d'école et sortir, par exemple, des classes pour pouvoir faire autre chose dans un contexte de réchauffement climatique, de soucis pour la planète et de découverte de la nature?
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, Emmanuel Laurentin. Effectivement, je pense que cet événement, ça peut être l'occasion de questionner le sens que l'on veut donner à cet événement, finalement, quand on est enseignant, et comment ça peut être l'occasion d'aborder la question de notre relation en tant que être humain à notre environnement, et comment finalement former une génération qui n'aura pas peut-être le même rapport à son environnement que nous, qui soit pas seulement un environnement dont on se sert, qu'on utilise, hein, pour son propre projet. Donc changer ce rapport à l'environnement, effectivement, ça suppose peut-être notamment, hein, de s'appuyer sur un héritage que nous avons en tant que pédagogue, en tant que chercheur en sciences de l'éducation, un héritage, vous l'avez dit, notamment du côté de la pédagogie nouvelle. Souvenons-nous que ce courant-là, justement, est né suite à un autre événement encore plus tragique peut-être, ou je ne sais pas si ils sont comparables, de toute façon ce n'est pas l'objet, qui est la Première Guerre mondiale, finalement, où on a voulu réinventer un nouveau monde, hein, réinventer quelque chose de différent, notamment par l'école, puisque l'école est pour cela vraiment un très bel outil, un lieu de formation de cette génération, même si les enfants ne se forment pas seulement dans l'école. Et précisément, l'éducation nouvelle a depuis donc ces années d'après-guerre développé tout un ensemble de techniques permettant une étude du milieu, c'est-à-dire de notre milieu, de ce qui nous environne, non pas théorique mais pratique, hein, en sortant dehors. Donc voilà, je suis pas du tout spécialiste, je suis pas historienne de l'éducation, mais voilà, on sait que cette éducation dans la nature, et pas seulement une éducation à la nature, a existé, hein, beaucoup de choses aussi se sont mises en place dans les années 60, les classes vertes, etc., le tiers-temps pédagogique dans les années 69, voilà, qui permettait des activités, faire connaître l'environnement dans son milieu de vie.
Ça serait une occasion formidable, justement, puisqu'on est contraint par cette histoire d'épidémie et de pandémie, de ne pas être trop nombreux dans les classes. Mais l'idée, ça serait de sortir justement des classes pour pouvoir mettre en œuvre un autre type de pédagogie, c'est ça?
Exactement. Mais alors, ce que je constate en tout cas, c'est que les écoles que j'ai pu contacter, hein, qui avaient des pratiques avant le confinement de sortir, par exemple, une demi-journée par semaine dans un square à côté ou dans un petit bois pour celles qui ont la chance d'avoir cela pas trop loin de chez elles, Malheureusement, ces écoles ont eu comme consigne de ne pas sortir de l'école, donc de continuer le confinement finalement, mais dans la classe et au mieux dans la cour, alors qu'on pourrait s'adapter aussi à cette distanciation nécessaire entre les enfants, en allant les amener aussi à l'extérieur, alors qu'ils viennent de passer tant de temps à l'intérieur, hein, qu'on pourrait imaginer leur plaisir à pouvoir courir sur une grande pelouse et faire des grands jeux dans des grands espaces, en maintenant cet éloignement minimum entre les enfants. Cet éloignement, comme l'indiquait tout à l'heure Christophe Caillot, sera très très compliqué à mettre en place, d'autant plus que les enfants sont jeunes. Hein. Je discutais avant notre réunion d'aujourd'hui avec des enseignants de maternelle qui disaient comment est-ce qu'on va expliquer aux élèves que l'école dans laquelle ils sont là le jour de la rentrée n'a rien à voir avec l'école qu'ils ont connue et qu'il s'agit finalement de rester à distance, alors que l'école c'est un lieu de vie et c'est un lieu de contact physique, d'autant plus qu'on est jeune. Effectivement, on peut provoquer des situations alors de traumatisme ou en tout cas vraiment de souffrance, de mal-être, et transformer les enseignants en personnes relativement maltraitantes, hein, quand un enfant ne peut pas s'approcher d'un autre enfant pour jouer avec lui, quand on lui dit non, surtout ne t'approche pas, voilà, donc mais pourquoi je ne peux pas m'approcher, etc. C'est très anxiogène, évidemment, donc c'est compliqué d'imaginer et de voir si c'est souhaitable pour lui.
Hein. Édouard Geffray, justement, oui. Qu'est-ce que vous répondez, Édouard Geffray, à cette idée que ça n'est pas la reproduction du même qu'il faudrait faire après cette expérience terrible du confinement, mais peut-être profiter de ce moment, comme le disait tout à l'heure Christophe Caillot, pour réfléchir, réinventer, réimaginer des nouveaux enseignements ou de nouvelles façons de transmettre le savoir et la connaissance dans les écoles.
Alors, peut-être plusieurs éléments, hein, parce que, évidemment, c'est un sujet très complexe et qui doit d'abord partir des professeurs et de leurs pratiques. D'abord, le premier élément, c'est que la réouverture progressive dont il est question depuis quelques minutes, notamment avec Madame Delalande, est une phase qui est par définition une phase intermédiaire. C'est une phase de reprise dans des conditions évidemment sanitaires très strictes, et dans l'attente d'un certain nombre d'évolution, évidemment. Donc, j'allais dire, c'est à la fois une phase très importante, y compris justement parce que les enfants auront besoin d'entendre une parole de l'école sur ce qu'est le coronavirus, sur ce qui s'est passé, sur ce temps de confinement qu'ils ont vécu, et pour lequel justement aussi un certain nombre d'entre eux ont vécu des traumatismes dans la famille, malheureusement. Et donc, il faudra pouvoir prendre en compte, accompagner, etc. Et puis évidemment, en termes pédagogiques, c'est aussi une phase, j'allais dire, un peu intermédiaire, puisqu'on sort d'une période très atypique, et plus encore pour un enfant, puisque évidemment, c'est quelque chose de très très particulier pour un enfant d'être confiné. Et c'est pas non plus la reprise, effectivement, de l'école d'avant. Donc, alors ensuite, sur, j'allais dire, la suite à long terme, et finalement les leçons qu'on peut tirer de tout ça. Alors, moi, j'entends très bien ce qui est dit, notamment sur le rapport à l'environnement. Vous savez que c'est un sujet qui, au sein du ministère, nous occupe beaucoup et qui, j'allais dire, sur lequel l'investissement a précédé la crise. Et d'ailleurs, au début, avec parfois en suscitant parfois un peu des sourires, hein, de certains qui nous disent que c'est vraiment la priorité, etc., etc. Bah, je crois que les événements et ce que vient très bien de dire Madame Delalande montrent bien que il y a un enjeu effectivement à ne pas perdre le contact avec son environnement, à savoir comment il fonctionne, à savoir s'y insérer, s'y intégrer, etc. Et donc tout ça est évidemment source de très très nombreuses réflexions sur lesquelles il faudra travailler avec les professeurs. Le deuxième aspect, et même si on en a tout à l'heure touché les limites, et une fois encore, elles ne sont pas relativisées, mais c'est évidemment le rôle du numérique, le rôle aussi de la culture à la maison. Vous savez qu'il y a eu l'action qui s'appelle Nation Apprenante, c'est-à-dire où tout un tas en fait d'émissions de radio, de télévision, etc. ont pu, être labellisées comme présentant un intérêt éducatif particulier. Il y a tout un tas d'acteurs culturels, etc., qui ont mis, par exemple, des expositions en ligne, des choses comme ça. Donc là encore, ça ne remplace pas tout. Mais finalement, savoir tirer le meilleur de tout ce qui s'est fait pour faire en sorte d'élargir finalement l'horizon des enfants à la fois à l'école, en dehors de l'école, en famille, etc. On voit bien que là, il y a des interactions, puisqu'on parle d'interaction, effectivement, l'éducation, c'est affaire d'interaction, et de milliers d'interactions, y compris imperceptibles, c'était très bien dit par M. Caillot tout à l'heure. Il y a tout un champ d'interaction là qui s'est ouvert, et qui mérite d'être vraiment examiné et utilisé, une fois encore, pas du tout dans une logique de substitution, mais pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour finalement, demain, peut-être fonctionner différemment. Vous voyez, je termine là-dessus pour ne pas être trop long, mais... J'ai rencontré par téléphone, hein, mais beaucoup de professeurs ces derniers temps qui me disaient avec l'école à la maison, la classe à la maison, les cours, classes virtuelles, etc. Il y a des élèves qui étaient très, j'allais dire, discrets en cours, hein, voire presque effacés selon l'expression qui m'a été dite, et qui se sont révélés en fait parce que le fait de passer par ce type d'outil leur a permis finalement de s'exprimer avec plus de confiance, etc. Bon. Bah, c'est des choses, voilà, je suis pas capable aujourd'hui d'en tirer tout de suite, et puis certainement pas de manière universelle, une leçon. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu, que les professeurs, beaucoup de professeurs ont remarqué, et qui demain peut-être, dans leur pratique pédagogique, les conduira, en fonction de ce qu'ils voudront faire, les conduira à avoir recours à certains outils, certaines séquences, etc., un peu différentes.
Sur ce point, Christophe Caillot, et également sur cette question de réinventer une école qui serait peut-être à air ouverte, on connaît l'expression pour certaines écoles qui se sont construites après 1968 sur ce modèle-là, donc beaucoup plus ouverte, peut-être moins confinée, moins fermée sur elle-même, et ce qui pose d'ailleurs la question de l'architecture des écoles, puisque je citais tout à l'heure Suresnes, qui était une invention liée justement aux maladies de la pauvreté, qui était la tuberculose ou le rachitisme dans les années 30, mais qui permettait justement d'avoir une autre architecture qui serait différente de celle qu'on a construite peut-être dans ces 10 ou 20 ou 30 dernières années.
Ah oui, c'est une question immense, et puis ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. On voit que la question de rouvrir les écoles, c'est la question aussi de rouvrir la société, et inversement. Et en fait, voilà, ça nous rappelle que toute interrogation sur ce qu'on veut que sur l'école, est une interrogation sur la société, une interrogation politique. Et là, c'est la même chose. Si on réfléchit à l'espace de l'école, en fait, il faut réfléchir aussi à la place de l'école dans la ville et finalement aux politiques urbaines. Alors bien entendu, il faudrait un autre bâti, mais là ça échappe au ministère, hein, c'est plutôt entre les mains des collectivités. Il faudrait des bâtiments qui soient très différents. Si on veut affronter ce changement climatique qui arrive, il faut par exemple des bâtiments qui soient plus bas, il faut des bâtiments qui soient entourés d'arbres, qui soient entourés de plantes, qu'il y ait du vivant autour, hein, qu'il y ait ce contact possible des élèves avec ce vivant, et que ce vivant finalement il nous protège, parce que c'est pas juste un environnement, en fait on fait partie de ce vivant, on est interdépendant. Mais pour ça il faut quoi ? Il faut briser certaines logiques, et ces logiques c'est notamment celle de fermer des classes, de fermer des écoles. Il y a des écoles rurales qui ferment. Quelles sont les écoles les plus proches de la nature ? C'est des écoles rurales. Mais on les ferme pourquoi ? Parce qu'il faut faire des économies en termes de postes. Et encore cette année, il y a de très nombreux postes qui sont fermés. Donc cette question du bâti, elle est liée aussi à au poste, et pas que au poste d'enseignant d'ailleurs, hein. Tous les autres professionnels, quand on parle de la rouverture des bâtiments et même du rapport à la nature, il faut bien des personnels pour s'occuper de cette nature, pour l'entretenir. Et pour l'instant, ces personnels, finalement, il y en a très peu, puisque les collectivités ont des moyens qui sont pas forcément en augmentation, mais pour des compétences qui, elles, ne font que croître. Et du coup, on s'en rend compte, dans nombre d'établissements scolaires, il y a de vrais problèmes. On parlait tout à l'heure de la question sociale dans la réouverture. Mais les écoles, les établissements scolaires les moins aptes à réouvrir, c'est justement ceux qui sont dans les quartiers populaires, parce que c'est là que se concentrent les problèmes dans les portes, dans les fenêtres, qu'il n'y a pas d'espace pour ouvrir, il n'y a pas d'espace dans les couloirs, dans les salles, etc. Donc voilà, et puis ça a repensé aussi dans une politique urbaine. Il faudrait sans doute repenser cette politique de la métropolisation, puisque la métropolisation, c'est la densification. Donc c'est soit une verticalisation, une densification qui fait qu'on a de moins en moins d'espace vert dans la ville, soit c'est un étalement urbain qui a toutes les conséquences en termes de gaz à effet de serre, etc., qu'on connaît. Donc repenser l'école, repenser son bâti, c'est nécessaire, mais c'est nécessaire aussi de le faire à d'autres échelles qui sont des échelles politiques.
Julie Delalande, sur ce point et en particulier sur ce sur quoi vous avez toujours travaillé, justement sur cette respiration entre l'intérieur et l'extérieur des écoles, sur des écoles qui ne seraient pas justement fermées sur elles-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'invention possible d'une nouvelle école, soit architecturalement, soit même dans les pratiques, à la sortie de cette crise?
Alors je pense, en fait, effectivement, comme le disait Édouard Geffray, qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place et que ce dont on a besoin, c'est effectivement que les initiatives des enseignants soient soutenues et encouragées. On voit par exemple sur Paris, on a eu l'occasion d'en parler dans l'actualité de nombreuses fois, l'initiative des cours Oasis qui permettent justement de réintroduire du végétal dans les cours. Et on voit bien comment, dans un premier temps, ce projet a d'abord été de faire face au réchauffement climatique, hein, aux canicules l'été. Et finalement, comme petit à petit, on essaye de le percevoir pas seulement comme un décor, cette végétation, mais comme un espace dans lequel on peut, avec lequel on peut interagir, c'est-à-dire comment ce végétal réintroduit dans la cour peut être un accès possible pour les enfants, hein, qui peuvent se salir en touchant la terre, en cherchant des vers de terre, en prenant des petites feuilles, etc. Non seulement pour leur jeu, hein, je pense ici aux plus jeunes qui vont beaucoup jouer à des jeux de fiction et puis interagir avec ces vers de terre, ces insectes, les végétaux, etc. dans leur jeu, mais aussi ensuite pour utiliser tout ce végétal, ce rapport à l'environnement naturel dans la pédagogie. Donc il y a cette notion-là qu'on retrouve fortement, qui est très, très habilement utilisée dans les écoles qui ont donc l'initiative de sortir de l'école, par exemple, je disais tout à l'heure, une demi-journée par semaine, ou davantage quand on peut, selon aussi ses projets éducatifs. On sait qu'en Allemagne, en Suisse ou en Suède, on fait même l'école toute la semaine dehors, donc c'est possible, hein. L'idée, c'est de donc non seulement de faire rentrer un peu de végétal dans l'école, mais aussi de sortir, hein, sortir dans le square à côté quand on est dans une grande ville, ou sortir dans un endroit autre avec ce végétal selon son lieu d'implantation de l'école. Et comment cela, ça permet des interactions entre les enfants, mais aussi des interactions entre adultes, enseignants, parents accompagnateurs, ATSEM quand on est à l'école maternelle, etc., qui changent aussi la relation pédagogique et qui changent la manière ensuite de faire la classe quand on retourne dans la classe. Donc l'idée, c'est une plus grande porosité et puis amener aussi les parents à rentrer dans l'école, mais ça c'est encore...
Ça fait partie des discussions, effectivement. Édouard Geffray, on sent bien que un ministère comme le vôtre, le ministère de l'Éducation nationale, est le fruit de contraintes très fortes, des contraintes qui sont liées, comme le disait Christophe Caillot, à un environnement qui est mouvant. On se souvient comment les écoles se sont barricadées, pas simplement depuis 2015, mais se sont barricadées depuis au moins la prise d'otage de Neuilly, avec cette idée que voilà, ça pouvait être des lieux qui mettraient en danger la sécurité des enfants si quelqu'un y entrait avec des intentions malignes. Alors évidemment, entre des écoles qui se sont barricadées, qui se sont enfermées, des architectures qui se sont durcies justement en fonction de ces craintes de sécurité, et l'ouverture espérée par exemple par Julie Delalande et peut-être aussi par tous ceux qui pensent qu'il faudrait réouvrir en fonction de la catastrophe climatique qui nous attend, les écoles vers le monde pour essayer de le faire comprendre, ce monde, aux enfants, il y a évidemment une contradiction très forte.
Ah, en tout cas, il y a un point d'équilibre à trouver. Avant de vous répondre, si vous me permettez, je voudrais juste revenir sur un point purement factuel, mais parce que je ne voudrais pas que nos auditeurs aient une idée factuellement inexacte, sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les fermetures d'écoles ou de classes en milieu rural. D'abord parce que, avec une démographie globale qui baisse de 30 000 à 40 000 enfants par an dans le premier degré, nous créons chaque année des milliers ou des centaines de postes dans le premier degré. Hein. Rien que pour l'année 2020, il y en avait prévu 440 postes créés à la rentrée. Et il se trouve que il y a exactement un mois, le ministre a annoncé qu'il n'y aurait non seulement pas de fermeture d'école sans l'accord du maire, mais également pas de fermeture de classe sans l'accord du maire dans toutes les zones rurales avec les villes de moins de 5 000 habitants. Ça s'est traduit par 1248 créations de postes de professeurs des écoles en plus pour la rentrée scolaire 2020. Donc voilà, pardon de le dire alors que ce n'est plus le sujet, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que le taux d'encadrement augmentera partout et on ne fermera pas d'école de classe sans l'accord du maire. Et on crée des emplois pour ne pas le faire. Alors, je reviens donc à ce que vous disiez, qui est évidemment très important. Il faut effectivement trouver le bon équilibre entre, la sécurisation par rapport à un environnement extérieur. Et effectivement, depuis plusieurs années, ça s'est évidemment sensiblement renforcé. Et un certain rapport au monde, à l'ouverture, etc. Alors, c'est pas forcément simple, mais même au sein de scolaire, si je prends des exemples que j'ai en tête et que je suis allé visiter, vous pouvez voir même au sein de scolaire, j'allais dire un extérieur protégé, parce qu'il faut éviter des intrusions, etc. Et puis, un espace intérieur, lui, reconfiguré de manière extrêmement intéressante, y compris en termes de justement rapport à la biodiversité, au vivant, etc. Vous avez aujourd'hui des milliers d'écoles, d'établissements, où vous avez des mares pédagogiques, où vous avez un potager collaboratif avec vos élèves, où vous avez des choses comme ça, et où donc vous arrivez justement à trouver cet équilibre. Alors c'est un équilibre qui est toujours mouvant, hein, c'est voilà, et puis qui est fondamentalement à définir au niveau local. Mais vous avez des choses mais absolument passionnantes qui se font, y compris en cœur de ville. Moi, j'ai visité un collège en cœur de ville en région parisienne, où l'équipe de professeurs, comme toujours formidable, les professeurs de SVT avaient mis en place tout un espace en fait vert en termes de biodiversité, etc., etc. Mais extraordinairement intéressant. Extrêmement fécond, les élèves hyper impliqués, des échos délégués dans toutes les classes. Vous voyez, donc c'est possible de concilier cette réconciliation avec un environnement dont nous faisons partie, et je rejoins ce qui était M. Caillot, et puis en même temps, la nécessaire sécurisation qu'on doit à nos élèves et à nos personnels, et sur laquelle il ne faut pas non plus transiger.
Christophe Caillot, vous insistiez dans un texte que vous avez signé dans Reporter avec Amélie Artutas et avec Françoise Arrive, qui est un historien des techniques et de l'environnement également, vous avez insisté sur l'idée qu'il fallait une école du plein air pour sortir de la peur et du confinement. On voit bien qu'il y a une contradiction, la peur. On est dedans pendant cette crise sanitaire, mais on était dedans auparavant par rapport à ces questions de terrorisme et d'agression possible. Et puis de l'autre côté, effectivement, la nécessité de faire que les enfants découvrent l'environnement qui est leur et peut-être imaginent un autre monde pour plus tard.
Oui, c'est un point essentiel qu'on développe dans notre texte, parce que notre école est en effet une école qui s'est fermée, et pour des raisons qui correspondent à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des peurs globales et qui risquent de s'accentuer, notamment même la peur du changement climatique risque de nous faire prendre de très mauvaises décisions. Hein. Par exemple, si les canicules s'allongent notamment dans le temps, un des risques, c'est par exemple de choisir d'installer des climatisations partout, ce qui ferait qu'aggraver un peu plus le mal, en fait. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut insister vraiment sur cette logique plus globale d'aménagement du territoire. Et là, Monsieur Geffray revenait sur le fait que des écoles ou des classes ne ferment pas dans le rural, mais il a bien précisé sans l'accord du maire. Et l'accord du maire, il arrive assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiques de métropolisation qui font qu'il y a des désertifications dans les espaces ruraux, et c'est justement ça qu'il faut rompre. Parce que sinon, on se retrouve avec des communes qui ont de moins en moins d'habitants et qui peuvent qu'être amenées à fermer des écoles. Alors que justement, dans le maintien de ces zones, donc de ces villes, ces petites communes à taille humaine, comme on pourrait dire, il y a un enjeu qui est fondamental en termes sociaux, économiques, tout ce que vous voudrez, notamment en termes scolaires. Et là, il y a bien des fermetures, il y a bien des classes qui ferment, contrairement à ce que dit Monsieur Geffray. Et même dans des collèges, je vous donne un exemple précis que je connais assez bien, qui est à côté, en Côte d'Or, dans l'Aussois, à Semur en Aussois, il y a un petit collège qui avait jusqu'à cette année des conditions relativement aisées, on va dire, c'est-à-dire qu'il y avait dans chaque niveau 20-22 élèves dans les classes de 6e, 5e, etc. Et deux classes ont été supprimées dans cette zone rurale. Et du coup, l'année prochaine, par exemple, un élève qui va rentrer en cinquième l'année prochaine va se retrouver avec 28 camarades. Alors que, justement, on sera toujours sans doute en situation de crise sanitaire. Et c'est ça aussi la politique réelle du ministère qui conduit, qui va conduire là, parce que sur ça, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Est-ce que les dotations horaires globales vont être augmentées? Qu'est-ce qu'on va faire avec les programmes, etc.? Sur ça, il n'y a pas de réponse, alors que c'est dans 3 mois, c'est court, enfin un peu plus.
Très brièvement, je donne la parole à Édouard Geffray pour qu'il vous réponde, et on clôt sur cette querelle, justement, sur les ouvertures ou fermetures de classe dans les espaces ruraux. Très brièvement, Édouard Geffray, qu'est-ce que vous allez faire dans 3 mois? Vous ne le savez pas.
Écoutez, la priorité dans l'immédiat, c'est de permettre la réouverture progressive des écoles. Évidemment, il y aura une suite, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va réouvrir déjà, on va voir comment les choses se passent. Cet été, on va également massifier les dispositifs de type colonies de vacances ou écoles ouvertes, hein, c'est ce que le ministre a annoncé, hein, parce que c'est aussi important d'avoir une forme de continuum et de pas laisser les enfants, j'allais dire, sans rien l'été, puisque ça fait partie des sujets. Et puis à la rentrée, on aura évidemment travaillé d'ici là avec les professeurs, avec les organisations syndicales et avec l'ensemble des acteurs pour voir comment les choses se passent. Il est évident que, notamment sur la période septembre jusqu'aux vacances d'automne, il faudra qu'on regarde, notamment en termes pédagogiques, hein, comment faire pour avoir une courbe d'apprentissage qui corresponde à la réalité de ce qu'ont vécu les élèves. Donc il ne s'agira pas de partir bien en tête, mais bien, une fois encore, d'épouser les réalités locales, de voir ce qu'auront effectivement vécu les élèves, et puis la façon dont on pourra le mieux les accompagner. À la fin, on est tous unis par la même chose, hein, c'est-à-dire l'intérêt de l'élève, c'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qu'on met au-dessus de nous.
Merci Édouard Geffray, merci à vous Christophe Caillot, et merci également à Julie Delalande d'avoir participé à cette discussion pour se poser les questions de la réouverture, mais également des réinventions possibles de l'école à la faveur de cette crise sanitaire. C'était le temps du débat. Merci à toute l'équipe du temps du débat, Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier, Manon Prissé, qui prépare avec moi ces émissions chaque jour et qui continue à nourrir la conversation mondiale. Je vous engage à aller la lire, cette conversation mondiale, sur le site de France Culture. Ce sont des textes d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes du monde entier sur la crise que nous vivons ces temps-ci. Merci au service web de France Culture qui nous épaule dans cette tâche, mais aussi pour cette émission enregistrée chacun chez soi, à Jean-Marc Clos, Christian-Denis Lecèvre et Marie-Christine Vesely. Et à la technique à Paris, il était à la Maison de la Radio, Nasser Moussaoui. Et depuis la Bretagne, où il monte ses émissions, où il les enregistre et il les monte, Alexandre Manzanares à la réalisation. Demain, nous poserons une autre question. Laisserons-nous à la nature, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, laisserons-nous à la nature la place qu'a la reprise pendant cette crise ?